Bonus.
Trax.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ripples from Carcosa pour la partie de Herald of the Yellow King. Donc j'espère que cette fois-ci ça va être la fin et que nos aventuriers vont quand même arriver au bout de ce scénario. Je suis avec Jordi, c'est Jordi qui joue donc...
Vidéric le veneur, qui est saxon évidemment de naissance, qui néanmoins travaille pour le seigneur Lord Boniface. Les veneurs, il a la peau tannée de celui qui travaille en extérieur, les cheveux courts foncés, les yeux marrons. Et il sert les Normands, mais bon, il a peut-être quelques accointances autres néanmoins, parce qu'il n'est pas très satisfait de cette...
Il reste saxon dans son cœur.
Tout à fait.
Je suis aussi avec Malouin. Malouin, donc tu joues Conrad, je crois bien.
Conrad, le cousin du Lord Boniface, le seigneur de cette zone-là.
Ouais, de la contrée dont vous venez, ouais.
Et voilà, moi je suis un chevalier d'apparence sinistre, pas hyper jovial. Cheveux blonds et courts, les yeux bleus. Je suis très pieux, et voilà.
Et je suis aussi avec Benzébuth. Donc Benzébuth qui a eu deux personnages, puisque son premier, le marchand dieu des Russes, est mort, mais maintenant il joue Odar. Parle-nous d'Odar, Ben.
De mes deux maîtres de haut, j'en impose dans le groupe, mais pas par mes paroles. Je suis l'assistant de Redwell, le forgeron, et qui est aussi le maître d'armes. Je suis le manutentionnaire, milicien, homme à tout faire. Et je suis aussi fort que je suis simple et superstitieux.
La dernière fois, nous avions aussi Riley qui jouait Lady Rowena, donc la femme de chambre de Lady Charlotte, la noble du coin. Malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir, donc Lady Rowena va vous suivre tel un fantôme, un PNJ qui va vous accompagner dans la quête. Vous verrez si vous décidez à un certain moment de la sauver ou pourquoi pas de la jeter directement dans les mâchoires des horreurs innommables qui vous attendent afin de gagner quelques secondes qui pourront vous permettre peut-être de fuir. Ça sera à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après toutes les missions que vous a confiées Lord Boniface, vous étiez de retour au château. Et vous êtes revenu au château pour constater que le chaos qui règne dans le pays est également ici. Si de nombreuses caractéristiques du château sont altérées, d'autres ont complètement disparu. Il semble plus grand, avec plusieurs tours, des ailes qui semblent ajoutées depuis la dernière fois que vous êtes venu ici, ce qui était juste il y a 2 jours. Toute la maçonnerie est maintenant noire et une grande bannière noire portant le signe jaune est suspendue au-dessus de l'entrée principale. Le pont-levis qui enjambait autrefois un fossé de 3 mètres est maintenant un pont de marbre qui traverse des eaux sombres et brumeuses. La neige tourbillonne autour du long pont qui mène au-dessus du lac où se trouve maintenant le château. Car oui, bien sûr, c'est toujours l'hiver et la campagne environnante est recouverte de neige puisque vous avez affronté les blizzards et les tempêtes de neige.
On est à combien de jours de marche du prochain village non contaminé?
Eh bien, c'est une excellente question, puisque tous les villages que vous avez vus jusqu'à présent semblaient avoir été atteints de folie. Donc, rien ne vous dit que de l'autre côté, ou dans des villages plus lointains, la folie n'est pas non plus présente, en fait. Mais pour te donner une idée, tu sais que donc Derek Solding, Beaton et Denover étaient généralement les villages les plus proches, considérés à 1 ou 2 jours de chevaucher un peu plus à pied. De l'autre côté, retrouver d'autres villages, il y en a pour peut-être 4 à 5 jours de marche.
Bien. Y avait aussi un village à côté de la forteresse de Lord Boniface.
Oui, tout autour. Enfin plutôt à l'intérieur des fortifications en fait.
D'accord. Ah oui, il y a une espèce de mur extérieur.
Tout à fait.
D'accord.
Et là, les fortifications ont l'air d'avoir été renforcées, puisqu'effectivement le château était sur un petit surplomb, une petite colline en fait. Et là, les murs de maçonnerie noire vous semblent bien étranges par rapport au château de Lord Boniface que vous connaissez.
Bon, de toute façon, il n'y a qu'une seule entrée, c'est par le pont en marbre, là.
Tout à fait.
Bien. Conrad, c'est peut-être le moment de nous annoncer, non? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on nous accueille à bras ouverts.
De crier notre présence à la porte, tu veux dire? La porte est fermée?
La herse est relevée, il n'y a plus de pont-levis puisque c'est transformé en un gigantesque pont de marbre qui traverse une rivière d'eau sombre et brumeuse qui semble beaucoup plus large que les 3 pauvres mètres du fossé que vous connaissiez. Et tout autour de vous, à part le bruit de l'eau et le bruit de, on va dire, d'amas de neige qui tombe de temps en temps à cause du poids, Tout est extrêmement silencieux. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun signe de vie ou est-ce que c'est le tapis de neige qui absorbe tous les sons? Ça, c'est plus compliqué à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le silence règne tout autour et vous n'entendez pratiquement que la rivière qui coule sous le gigantesque pont. Que faites-vous?
Moi, je vais encocher une flèche déjà parce que je me sens pas rassuré.
Moi, je vais manger un peu de neige parce que j'ai soif.
Je mets la main sur la poignée de mon épée et j'avance en montrant bien mes couleurs en fait.
Mm-mm. Ok.
On sait qu'on a affaire à un individu qui change les autres par la parole. Est-ce que on n'aurait pas un moyen simple de se prémunir de ce genre de choses, même si.
Le s'assourdir.
Bah oui. Après, le problème, c'est qu'on va avoir l'air malin pour se parler, mais bon.
C'est une possibilité. Hein. Vous pouvez trouver quelque chose, effectivement, qui puisse vous aider là-dessus. Si vous avez
des morceaux de pain, de la mie de pain dans les oreilles.
Ouais, avec les dernières rations qui vous restent, par exemple, vous pouvez effectivement faire ça.
Vous en pensez? Ouais, ça va être un peu plus délicat pour se parler.
Bonne idée, mais c'est effectivement, a priori, la vieille Esther avait pas été touchée. Après, il n'y a qu'à. Il y a 9h qu'on savait que c'était le champ. Après, on sait pas trop sur les autres villages.
Qu'il y a... Le champ ou l'histoire, ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Hein, mais...
Effectivement, ça pourrait protéger d'une partie du problème si on se retrouve face à un problème de ce.
Ouais. Après, forcément, ça va être compliqué de parler aux gens, mais bon, ouais, je le fais en tout cas.
D'accord, toi, tu t'enfonces de la mie de pain dans les oreilles.
Que j'ai préalablement, évidemment, roulé pour augmenter sa résistance phonique.
Cette densité. Conrad, fais-tu ceci aussi?
Oui, je fais ça aussi, oui. Je pense que c'est une bonne idée.
Et Odar, toi, en voyant tes camarades se mettre des boulettes de pain dans les oreilles, tu les imites ou...
Oui, je comprends pas trop pourquoi, mais je les imite.
Suite à ça, donc, Conrad, tu disais que tu commençais à t'avancer prudemment, la main sur l'épée, sur le pont.
Oui, tout à fait. Et puis, par contre, voilà, je montre bien les couleurs de mon. Enfin, si j'ai un blason sur ma
surcotte. Tu es sans doute équipé du blason de Lord Boniface. Je vais te demander, par contre, de me faire un petit jet de sagesse, s'il te plaît.
Moi, je vais le suivre à quelques mètres derrière et donc aux aguets, flèche encochée, prêt à faire feu de tout bois.
Oh, punaise.
Ah, oui.
C'est une réussite. Hein. C'est une bonne réussite puisque tu as fait 2 pour une sagesse de 9. Donc, tu avances doucement sur le pont, tu arrives à peu près à la moitié du pont, je ne sais pas ce que font les autres, est-ce qu'ils t'ont suivi, est-ce qu'ils t'ont laissé passer en éclaireur tout seul?
Moi, je suis quelques mètres derrière, je suis 5-6 mètres derrière.
Évidemment, je fais une pause et je regarde s'ils sont toujours derrière.
Ouais. Ouais. Odar, tu suis aussi, je suppose.
Oui.
Tout se passe bien. Quand tout d'un coup, arrivé à peu près au milieu du pont, un bruit te parvient à toi, Conrad. Un bruit te semble un peu étrange. Tu as l'impression d'avoir entendu quelque chose en bas, dans la rivière, remuer.
La mort dans l'âme, je me dirige vers le bord du pont pour essayer de voir si je vois quelque chose.
D'accord. Et tu fais, Conrad ? Nous voulons rentrer dans la forteresse et pas aller nager au fond des douves.
J'ai entendu quelque chose bouger au fond de la rivière.
Crois-tu que ce soit Lord Boniface?
J'espère que non.
Alors, continuons.
Bah écoute, s'il t'en a parlé, les deux autres, vous pouvez aussi faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Lidéric et Odar.
C'est pas là que je suis le pire.
Donc, raté.
Vous n'entendez pas les bruits alors que Conrad les entend distinctement. Tout d'un coup, la surface glacée de l'eau explose vers le haut. 4 longs tentacules sortent de l'eau et s'étendent jusqu'à la travée du pont. Elles s'agitent avidement vers vous tous. Un gémissement écœurant, un bruit d'aspiration et le bruit d'éclaboussures peuvent être entendus du côté gauche du pont. Vous allez, du coup...
Run for your lives! Fuyez, pauvres fous!
Vous allez tous me faire déjà un petit jet de sentimental, bien sûr.
Ça, je m'en doutais.
Et voilà.
Donc tu peux diminuer ta ressource de santé mentale d'un dé, Conrad.
Et moi aussi.
Vidéric aussi. Donc vous êtes passablement choqué par cette vision. C'est normal. Toi, Odar, pas tant que ça. Au final, c'est monstrueux. Mais bon, ça ne te choque pas plus que ça. Est-ce que tu comprends réellement ce qui se passe devant toi? C'est peut-être ça aussi qui sauve ta santé mentale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, comme Vidéric, es un peu pris au dépourvu, alors que Conrad, qui avait entendu la créature, même s'il est choqué, va pouvoir faire quelque chose. Il va pouvoir décider d'une action avant que les tentacules ne s'abattent sur vous. Que souhaites-tu faire?
Eh bien, je me précipite vers la porte du château, mais j'essaie d'appeler, leur dire de courir, en fait.
Courez!
Parfait, parfait. Je vais te demander un petit jet de charisme pour voir si tu arrives à convaincre, à sortir tes deux compagnons de leur torpeur.
Non, non, non.
Tu cours affolé vers...
un piège.
Tu cours affolé vers la porte du château, vers la herse du château pour te mettre à l'abri, alors que les tentacules... Se projette vers tes deux camarades qui sont restés sur le pont. Rowena, bien sûr, t'ayant suivi, parce que Rowena a un instinct de survie très poussé en tant que PNJ. Je vais vous demander à vous deux, Viteric et Odar, ce que vous comptez faire. Est-ce que vous comptez essayer d'esquiver, de parer ces énormes tentacules qui foncent vers vous, ou est-ce que vous essayez de faire autre chose? Dites-moi.
Je vais essayer d'esquiver, personnellement.
D'accord.
Peut-être en avançant vers le parapet, en fait, plutôt qu'essayant de reculer, pour laisser plus de marge à ces saloperies de tentacules, je vais plutôt avancer pour qu'elles soient bloquées par le parapet, en fait. Dans un petit jet, mais bref.
On parle de tentacules de plusieurs mètres de haut qui contournent largement le pont.
Néanmoins, ils peuvent pas se plier à 90 degrés, tu vois. Donc, il y a plus de chances que je puisse me blottir contre le pont juste pour esquiver le premier coup et après fuir vers l'entrée du château. Là.
C'est vrai. Suivant ton jet, tu verras si tu te rapproches ou non de la herse du château.
Bien sûr.
Et toi, Odar, que souhaites-tu faire?
Je sens l'agressivité de cette bête et je vais réagir de la meilleure des manières que je connais en la frappant les tentacules.
Ok. Écoute, on va commencer par Viteric. Fais-moi ton jet de dextérité pour esquiver la tentacule.
C'est un échec.
C'est un échec. Aïe.
19 sur 15. Aïe, aïe, cette soirée commence mal.
Effectivement. Surtout que la créature est particulièrement mortelle. Et toi, Odar, je t'en prie, fais-moi un jet pour essayer de voir si tu arrives à repousser un petit peu cette tentacule. Tu arrives à repousser la tentacule et donc tu prendras qu'une partie des dégâts qu'elle t'inflige. Viteric.
Oui.
Je vais lancer les dégâts pour ton personnage. Et tu ne prends que 4 points de dégâts.
Oui, parce que, oui.
Mais par contre, tu te retrouves du mauvais côté, on va dire, du côté d'où vous venez, avec les tentacules qui gigotent entre toi et la herse du château, quoi. Odar, toi, du coup, je lance les dégâts pour ton personnage. Tu prends quand même 5 points de dégâts.
Heureusement que je prends moins de dégâts. En fait, j'en prends plus.
Le dé est plus petit, hein. Par contre, le choc te projette vers la herse et tu n'es plus qu'à quelques mètres de rejoindre Conrad qui semble à l'abri derrière la herse. Que faites-vous, du coup?
Moi, du coup, je suis hors de portée, mais du mauvais côté, ou je suis quand même encore sujet aux attaques?
T'as été projeté et t'es hors de portée, peut-être pas complètement, hein, parce que tu sens que les prochaines secondes risquent d'amener les tentacules vers toi. Mais pour le moment, tu peux te relever et reprendre un peu ton souffle et décider de ce que tu vas faire ensuite.
Bah écoute, l'idée c'est de reculer dans l'idée, au moins d'un ou deux pas, dans l'idée d'attirer les tentacules à moi. C'est au moment où ils vont vouloir se déplacer, je vais espérer qu'elle puisse pas faire deux choses à la fois et qu'elle puisse pas à la fois se déplacer et attaquer. Et donc quand elle va vouloir se rapprocher pour me taper plus facilement, je vais foncer vers l'entrée du château.
Tu vas essayer d'attendre de voir si elle se déplace ou si elle attaque, et à ce moment-là tu vas essayer de timer ton action pour justement la prendre par surprise et courir vers le château.
Voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée. Ouais.
Ok. Ok. Du coup, Conrad et Odar, faites-vous quelque chose?
Je vais pas dire que je vais faire une diversion, mais je suis vexé qu'elle m'ait frappé, donc je vais essayer de la frapper.
D'accord, donc toi tu retournes vers la créature pour essayer de frapper les tentacules.
Plus fort.
Ouais.
Ok. Et toi, Conrad?
Alors moi, je récite un psaume et j'attrape une pierre et je lance sur des tentacules pour essayer d'attirer vers moi. En fait.
Conrad, tu me feras un jet de dextérité pour attaquer et Odar, tu me feras un jet de force pour attaquer, pour voir si vous arrivez à déjà... Plus ou moins faire une diversion pour Viteric. Donc vous avez tous les deux réussi à toucher la créature, effectivement, à occuper plus ou moins quelques tentacules. Ce qui fait que Viteric, tu vas pouvoir considérer avoir un bonus sur ton jet de dés, un bonus de 2 points, du coup. Alors que tu vois tes deux compagnons qui essayent d'harceler les tentacules de leur côté, d'autres tentacules se dirigent vers toi et commencent à se timer pour pouvoir s'abattre sur toi. Et au moment où elles s'abattent sur toi, tu réussis tout juste, non? Avec un bonus de 2.
Alors, je sais pas, il me semble me souvenir, malheureusement, à mon corps défendant, qu'il faut faire inférieur à la caractéristique et non pas égal. Et que donc, malgré ce bonus de plus 2, je fais égal à ma dextérité. Donc, je fais 17 pour 15. Et, voilà.
Et donc, tu te fais effectivement frapper par la créature. Et je vais donc lancer les dégâts. Et tu ne te prends que 3 points de dégâts.
Et 3 plus 4, hein, ça commence à faire.
Le point intéressant dans cette histoire, c'est que vu que tu as commencé à courir à travers les tentacules, tu t'es pris un coup, mais qui t'a projeté plutôt du côté de tes compagnons, qui peuvent essayer de te venir en aide pour te tirer à l'abri.
J'essaie de faire ça, oui, effectivement.
Exactement ce que je voulais faire, je murmure
entre trois coups de cassé. Ben Malouin, vas-y, fais-moi un jet de force pour voir si tu arrives à le tracter de manière simple. Et sans aucun problème, tu arrives à tirer Vidéric près de toi et vous repassez tous les deux la herse. Odar, que fais-tu ?
Odar, rejoins-nous !
Je recule avec les autres parce que je me rends compte du peu d'efficacité que j'ai.
Du coup, à peine la herse passée pour vous, elle se ferme et vous entendez comme un cri qui vient de l'extérieur, un cri horrible. Et vous voyez effectivement des volutes de brume qui semblent couler des murs, en fait. L'étrangeté du château vous remplit de confusion, d'effroi. Les plafonds sont voûtés à plus de 30 pieds de hauteur. La maçonnerie est noire. Vous voyez tout autour différentes bougies qui scintillent d'un jaune maladif, plongeant les salles, les couloirs et les corridors dans une sorte de lumière obsédante et écœurante. Le hall d'entrée dans lequel vous êtes arrivé est maintenant plus froid, plus grand que dans vos souvenirs, avec de nombreux passages qui en partent et que vous ne connaissez pas du tout. La brume derrière vous s'amplifie et sur les murs autour de vous semble couler. Un des murs d'ailleurs laisse échapper encore plus de brouillard qui tourbillonne, danse, caressant la structure comme un être vivant. Et lorsqu'il se dissipe quelques instants plus tard, vous découvrez que le mur devant vous est devenu une arche. Au-delà, un escalier en colimaçon mène à une tour. En suivant ce chemin, vous vous rendez compte qu'une paire de bannières héraldiques est accrochée de chaque côté de l'arcade. Les dimensions et les qualités de ces bannières les identifient comme les bannières d'un roi, tandis que leur emblème, un seul énorme signe jaune, proclame de quel roi il s'agit. À ce moment-là, une voix forte et joyeuse derrière vous vous dit « Bienvenue !»
Je me retourne.
Vous voyez un bouffon avec un masque jaune sur les yeux et un voile sur la bouche. Ses vêtements sont riches et colorés, en noir et en or, décorés de cloches d'argent. Il porte un chapeau à trois longues pointes. Les chaussures du bouffon sont longues, s'enroulent autour d'elles au niveau des orteils. Quand il vous regarde, il semble satisfait de vous voir et il vous dit « Vous vous habituerez à ce genre de choses. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le roi souhaite vous voir. Je dois vous guider vers la salle des fêtes. Sinon, vous risquez de vous perdre. Ça serait dommage, n'est-ce pas ?»
J'hésite à tirer, en fait.
Que faites-vous ?
Le combat ou la discussion ?
On va voir Guillaume, le conquérant ?
Peut-être plutôt la discussion dans un premier temps, mais je ne sais pas. Je ne suis sûr de rien.
Donc, Odar, toi, tu disais ?
On va voir Guillaume, le conquérant ?
Ah non. Beaucoup plus grand roi que ça. Mais suivez-moi, vous allez voir.
Le conquérant, il est déjà très grand. Il est presque aussi grand que moi.
Mais je suis sûr que le roi que vous allez voir est encore plus grand.
Monseigneur. Moi, je suis le bouffon. Je m'avance vers lui, en tout cas.
Vous autres ?
Bah, je suis aussi. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, là. Donc je vais suivre le bouffon aussi.
Il a l'air enjoué, il vous raconte des petites blagues aussi. Vidéric, toi tu suis aussi, je suppose ?
De très mauvaise grâce.
De très mauvaise grâce. Donc, du coup, il vous emmène, il vous guide, en fait, à travers différents couloirs. Vous êtes plus ou moins guidé aussi par les clochettes qui sonnent joyeusement. Du costume du bouffon. Il vous fait monter et descendre des escaliers, traverser des couloirs. Vous apercevez qu'il fait de nombreux virages à gauche, à droite. Vous avez l'impression que de temps en temps, le sol monte, puis descend. Vous avez aussi à un moment une impression en vous disant « Mais si on tourne ici, on va revenir sur nos pas. » En fait, non, vous ouvrez, ça vous amène sur une nouvelle pièce où au final, il finit par reprendre une autre porte et puis partir dans une direction différente. Le château semble encore plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur et l'architecture et la disposition des couloirs vous semblent complètement folles. Faites-vous quelque chose de particulier ? Est-ce que vous...
Est-ce que j'essaie de retenir le chemin ?
Alors, tu commences effectivement à retenir le chemin. En 5 minutes, facile. 10 minutes, facile. Ça va. Un quart d'heure, ça commence
c'est
à
un
faire...
un quart d'heure qu'on marche.
Un peu long. 20 minutes, tu commences à te poser des questions sur est-ce que tu as bien retenu le chemin ?
Oui, bah oui, j'imagine.
Au bout de 25...
Il n'est pas très accessible, votre paroi
Ah, mais c'est qu'il faut aller dans la grande salle du banquet, vous savez.
Pour nous accompagner, j'aurais eu... Effectivement, nous serions perdus.
Ah oui. Si on ne connaît pas le château, c'est compliqué. Hein. Mais là, c'est parce que le château est très grand, puisque nous avons beaucoup d'invités. Mais nous allons à la grande salle des banquets, vous verrez tout le monde. Effectivement, 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et au bout d'une heure, quand même, vous arrivez devant la porte que vous connaissez, qui est la porte principale de la salle des fêtes.
Oh, on la reconnaît, elle n'a pas changé.
Voilà. Et Ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure, que vous savez que vous vous rapprochez, puisque vous entendez, en fait, des sons. Vous entendez des rires, des bruits de vaisselle, comme reflétés sur les murs, comme des échos. Vous entendez ce qui vous semble être peut-être des spectacles d'artistes ou de saltimbanques. Vous entendez des chants religieux de Yule, vous entendez des ballades, des numéros musicaux, vous entendez des toasts, des discours, des bruits de pas de danse aussi. Et au fur et à mesure que le bouffon vous guide à travers les couloirs, bien sûr, ces bruits s'intensifient jusqu'à arriver devant la fameuse porte de la salle des fêtes. Arrivé devant la porte de la salle des fêtes, vous entendez, donc les portes s'ouvrent, et le héros de Boniface, que vous connaissez, crie à la cantonade, puisque vous voyez la salle des fêtes, effectivement, toutes les tables ont été mises en place pour la fête de Hulle, tous les artistes, tous les numéros de prévus, les invités sont arrivés, Lord Boniface trône avec sa femme à la table, et vous entendez le héros à côté, peu derrière Lord Boniface, qui crie, qui à la cantonade et présente les numéros. Il commence à dire « Jeune Kael, barde de Carcosa, l'a perdu, et héros du roi en jaune. » Le bouffon à côté de vous s'anime de haut en bas, il saute de haut en bas, il s'excite, il frappe dans ses mains, il a l'air d'être extatique, et il dit « Oh, c'est Kael, c'est mon préféré. Est-ce que vous avez déjà entendu son histoire? C'est à la mode dans tout le pays. Ça rend le public complètement fou, non ?» Je suis sûr que vous allez l'adorer. Je vous promets. Dépêchez-vous. Si nous nous déplaçons rapidement, nous pouvons arriver à temps. Regardez, il y a des places là-bas. Venez, venez.
Il y a une scène ?
Il n'y a pas une scène. Toutes les tables sont placées dans une grande salle en pierre. Il y a des fourrures et des bannières un petit peu partout, ainsi que des tapisseries sur les murs. Il y a beaucoup de torches, de bougies et de sources lumineuses. Mais toutes les tables sont des tables massives, assez longues, placées en U. Et l'intérieur du U est laissé vide, justement pour que tous puissent observer le spectacle qui se déroule au centre de ce U, voire transformer l'intérieur de cet espace en piste de danse improvisée et ce genre de choses.
Benrad, Adar, je ne sais pas pour vous, mais moi je vais mettre tout ce que je peux pour empêcher cet individu de raconter son histoire.
C'est une bonne idée, mais déjà il faudrait bien correctement se boucher les oreilles, je crois.
Oui, c'est pas faux.
Très bien ce qu'il est capable de faire.
C'est pas faux. Donc je raffermis mes bouts de pain dans les oreilles.
Je mets de la croûte.
En plus
de la cire.
J'encoche une flèche et je me prépare à monter sur une table pour avoir le champ libre.
Donc vous voyez un beau jeune homme qui se tient immobile, il a 15 ans maximum. Il a vécu d'une tunique marron, brodée du signe en jaune. Il a une cape multicolore, richement teintée sur ses épaules. Mais l'arc-en-ciel des teintes de sa cape, qui est aussi le signe d'un maître barde, semble s'estomper et saigne dans une dégoûtante nuance de jaune à l'ourlet, le tissu devenant effiloché et déchiqueté. Il commence à raconter des histoires, les gens applaudissent.
Je tire une flèche.
Tu tires une flèche directement.
Oui, enfin, je monte sur une table. Enfin, j'espère que mes amis Odar et Conrad s'avancent vers lui, prêts à tirer l'épée, et je monte sur une flèche. S'il commence à parler, en tout cas, je tire une flèche dessus, ça c'est sûr.
Ok, oui, il parle puisqu'il raconte son histoire.
Je crie lequel le maître Bard vient assassiner Lord Boniface, et je tire une flèche.
Bien, fais-moi un petit jet de dextérité, s'il te plaît.
Ouais. Que ce soit un peu meilleur que mes jets jusqu'à maintenant. 13 sur 15. Bon, c'est pas ouf, mais c'est néanmoins réussi.
La flèche part et se dirige droit vers Kael. Quand le bouffon, en fait, s'interpose, prend la flèche à sa place et tombe comme si c'était une marionnette dont on venait couper les fils, et il s'effondre au sol directement.
Je ne baisse pas les bras et j'encoche une deuxième flèche, prêt à faire feu à nouveau.
Alors que tu cherche dans ton carquois les flèches, tu aperçois le bouffon derrière toi avec tes flèches à la main. Messire, laissez-le raconter son histoire, elle est magnifique.
Je lui saute dessus pour lui choper les flèches.
D'accord, okay. Donc tu fais-moi un petit jeu. Non, tu y arrives, hein. De toute façon, il se défend pas vraiment, tu lui sautes dessus, tu as l'impression en fait de juste tenir des vêtements, et quand tu regardes un petit peu ce qui est par terre, tu vois qu'effectivement il n'y a pas de corps, il y a juste des vêtements et des espèces de tissus jaunes, de sortes de chiffons jaunes sales et déchiquetés, et qui commencent tous à se disperser en sorte de brume. Tu as le droit de me faire un petit jet de santé mentale.
Bien, c'est déjà bien descendu. Hop, 6 sur 6. Ouf, ça va.
Comment réagissent les gens autour de me voir lancer une tirer une flèche et de me voir me battre
C'est comme s'ils ne t'avaient pas vu, en fait.
Okay. Ils sont déjà sous l'emprise, très bien.
Vous entendez la voix de Kael pendant ce temps-là qui a dit « Écoutez-moi maintenant, haute rassemblée, alors que je vous raconte une histoire de tristesse, de beauté et de perte, je raconte maintenant l'histoire qui ne devrait pas être racontée, l'histoire de celui qui ne devrait pas être nommé. Je parle maintenant de l'histoire de Carcosa, la perdue, et de la venue du roi en jaune. » La foule devient complètement silencieuse.
Bonjour à tous, petit message technique. Nous avons dû couper la session à cet endroit pour la reprendre plus tard. Nous allons vous donner la suite de cette session collée à cet épisode. Vous allez voir que la mémoire des joueurs leur joue parfois des tours, mais la bonne nouvelle, c'est que nous récupérons Ryla au passage. Allez, bonne continuation.
Donc, est-ce que vous avez des questions, par exemple, Lady Rowena, est-ce que tu as des questions par rapport à ce qui se passe, etc. Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse certains trucs?
Ouais, je veux juste savoir si je reconnais, je retrouve Lady Charlotte parmi tous ces gens, ou il n'y a pas du tout les gens qui connaissent.
Sur la table d'honneur, tout au loin, il y a effectivement il y a tous les invités de Lord Boniface et sa famille, Lady Charlotte, il y a tout le monde. Et ils ont l'air d'être complètement subjugués par les différentes prestations, notamment la prestation de Kael.
La salle, elle a des proportions normales ou ça ressemble à la salle du trône qu'on connaît?
Alors, c'est la salle du banquet, celle que vous aviez vue, mais elle vous semble effectivement grande par rapport à ce dont vous vous souvenez.
Un peu étirée, quoi.
Un peu étirée. Voilà.
Et comme le tout de personnes à l'intérieur, on les estime à c'est quelques dizaines, c'est quelques centaines, c'est quoi?
Non, on arrive à presque 200 personnes avec tous les invités qui sont arrivés pour Yule.
D'accord.
Mais ce sont essentiellement tous les gens du village,
du village familier.
Voilà, tous les invités que vous vous attendiez à croiser à la fête de Yule, tout le monde est là, en fait. Hein.
Et le bouffon et Kael en plus.
Et le bouffon et Kael en plus, bien sûr. Du coup, je vais vous demander ce que vous faites. Puisque de ce que vous faites, ça va définir le destin de ce qui arrive ensuite.
Est-ce qu'on peut se concerter? Concertons-nous.
Bien sûr. Donc vous aviez vu effectivement Vidéric tirer une flèche sur Kael.
T'as tiré direct, Vidéric, bien sûr.
Ah bah oui, moi je voulais pas qu'il commence à raconter son histoire, parce que j'ai bien compris que ça allait poser problème. Alors si, juste le petit truc qu'on a oublié de dire aussi, je pense que c'est complètement inutile, mais néanmoins on l'a fait, on s'est foutu de la bourre, du tissu, du coton dans les oreilles.
Ah, je sais plus si c'était du... Oui, un truc genre de la mie de pain ou du...
Ah, la mie de pain, peut-être bien de la mie de pain, ouais, c'est ça.
Ou de la cire, il y avait plein de bougies aussi. Enfin, il y a plein de bougies qui illuminent les couloirs, donc peut-être que si c'était avec de la cire. Enfin, bref, effectivement, vous êtes bouché les oreilles.
Donc voilà, moi j'aimerais bien récupérer mes flèches, hein, parce que sans ça, je suis un petit peu cul nu.
Mais là, à partir du moment où il a tiré, est-ce que la foule nous regarde ou...
Pas du tout, il semble complètement subjugué par Kael.
D'accord.
Tout le monde semble complètement subjugué par Kael, sauf vous et le bouffon qui est en train de... qui a couru dans la foule et qui commence à jongler avec les flèches tout en courant.
Okay, moi, je dis aux joueurs...
Vas-y, pardon.
Il faut qu'on les réveille. Il faut les sortir de là.
Mais en fait, c'est que en se faisant Kael que je pense qu'on y arrivera. Hein,
Tu crois, mais si je parle à Lady Charlotte, elle me connaît, elle va me répondre.
Enfin, s'ils sont sous le charme, ils sont sous le charme, quoi. Moi, je crierais bien à Odar et Conrad de tuer Kael, quoi.
Ouais.
Pendant que je chope le bouffon, peut-être avec l'aide de Lady Rowena, si elle veut bien m'aider.
Oui.
Moi, je partirais sur un plan un peu agressif comme ça, quoi.
Je pense que je vais essayer de dégager l'accès jusqu'à Kael en fonçant avec mon bouclier et en poussant les gens.
Il n'y a pas de gens particulièrement autour de Kael. Il y a des grandes tables qui sont placées comme un U. Plein de gens autour des tables et Kael au milieu en train de compter.
D'accord, donc l'accès est relativement aisé.
Tout à fait.
Bah, allons-y. Hein.
Alors, dites-moi exactement qui fait quoi et quel but.
Moi, je fonce sur le bouffon dans l'idée de rechouper mes flèches.
D'accord.
On est d'accord que Kael, il parle comme ça, il n'a pas de livre, il n'a pas de...
Non, il parle comme ça, il raconte.
Un conteur, très bien. Moi, je vais aider, du coup, Vidéric, mais j'empile avant moi, le masque de cuir jaune que j'avais trouvé.
Ok, il n'y a aucun souci, donc tu vas aider Vidéric pour choper le bouffon et les flèches, ok?
Poignard à la main.
Ok.
Et je me précipite sur Kael.
Ok. Dans le but de...
Épée au clair, dans le but de le frapper.
Mm-hmm. Parfait, parfait.
De provoquer une hémorragie dont la finalité sera la mort.
Et du coup, Odar, que fais-tu, toi? Tu fronces aussi vers Kael avec ton...
Oui, je vais... Je sais pas si je peux faire un truc sympa, mais je vais... Voilà, l'idée, c'est de l'interrompre, hein, l'empêcher de chanter, donc...
Il raconte une histoire, il chante pas réellement.
Je sais pas si je peux le plaquer, enfin, en tout cas, le...
Si, on va pouvoir faire. Je relisais, mais en fait, il y a... Oui. Donc, il y a beaucoup de monde, hein, c'est des amis, des membres de la messe normande qui remplissent la salle des fêtes de Lord Boniface. Voilà, donc ils ont commencé à être subjugués par Kael, et en fait vous apercevez Kael donc est un beau jeune homme qui se tient immobile devant la foule et qui compte son histoire. Et du coup, bah, je vais vous demander de faire vos actions. Donc par qui on commence? Est-ce qu'on commence par Videric et Lady Rowena?
Comme tu veux.
Parfait, donc vous courez derrière le bouffon pour essayer de récupérer les flèches. Donc, je vais... comment vous y prenez-vous? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de lui sauter dessus, de le ceinturer, de lui mettre un coup de couteau
Le prendre en tenaille, quoi. Hein. Moi, le but, c'est... Bah, l'ayant déjà tué une fois, je me dis que le tuer une deuxième fois, ça va pas forcément m'aider à grand-chose. Donc, puis surtout que je ne dois pas avoir d'autres armes. Mmh.
Moi, j'essaie de le poignarder.
Ok. Bah, fais-moi un petit jet de force, du coup, pour essayer de le poignarder. Et puis, bah, Videric, toi, tu...
J'ai un peu de chasse, quand même. Mais...
Tu veux essayer de récupérer... Tu vas essayer de tirer des flèches, du coup.
Ouais, c'est ça. Ouais. D'attraper au moins, pas forcément toutes, mais au moins une ou deux flèches.
Bon, Lady Rowena ne t'a pas vraiment aidé. Hein. Elle court après le bouffon, un couteau à la main, et lui esquive en riant et en disant le roi arrive. Mais tu peux faire un jet de Dex, Videric, pour essayer de lui voler une flèche au passage.
C'est un 13 sur 15, c'est réussi.
13. Donc tu as récupéré une de tes flèches. Conrad. Odar, donc vous foncez vers Kael. Donc dites-moi ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous essayez de lui mettre un coup d'épée? Est-ce que vous essayez de le ceinturer? Est-ce que vous essayez de le faire taire ou ce genre de choses? Je ne sais pas, dites-moi.
Non, moi c'est vraiment le coup d'épée dans le but de l'hémorragie et tout ça.
Ah bah écoute, lance-moi ton petit jet de force. Et toi, Odar?
Ouais, je vais rester sur le plaqué au sol.
D'accord. Est-ce que t'es le plaqué au sol, tu veux, pour éviter qu'il se prenne un coup d'épée ou pour l'interrompre? S'il se prend un coup d'épée, tu fais quoi?
Bah, je le ceinture et je mets son corps vers le vers mon collègue.
Oui, donc ouais. Ok, donc bah t'arrives effectivement à le bloquer et Conrad lui donne un grand coup d'épée. Et là, vous voyez donc le beau jeune homme qui était Kael qui s'effondre et qui dit le chêne, tout ce que je voulais, c'était des excuses pour le chêne. Ils ont dit qu'ils ne l'abattraient pas. Et il s'effondre, répandant son sang par terre. Et alors que son sang se répand par terre, vous commencez à voir les gens tout autour qui se mettent debout en hurlant de terreur, en se griffant les yeux, en se bouchant les oreilles, en glissant sur le sol pour se recroqueviller.
Tu veux faire.
Vous voyez effectivement que le chaos se déchaîne tout autour de vous, alors que le sang se répand sur le sol, que la cape multicolore richement teintée qui couvrait les épaules de Kael, son arc-en-ciel de teinte, signe d'un maître barde, s'estompe, alors que le sang se répand sur cette cape, elle devient d'une nuance et le tissu devient de plus en plus effiloché et déchiqueté. La brume autour de vous se lève et au fond du couloir où se trouve une haute table, un nuage de brume pâle commence à se rassembler, formant un énorme panache. Il devient de plus en plus épais et solide, et quelque chose commence à prendre forme. Que faites-vous?
Il fait quoi, le bouffon, pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe?
Le bouffon, lui, tu le vois sautiller d'un pied sur l'autre, en train de jubiler, il fait « Ah, le voilà
!» Bien. Ouais, je réessaye de choper mes flèches.
Oh, tu peux tout les récupérer, il n'y a pas de souci.
Bien. Et ben, j'en coche et je me retourne vers cette brume. Il ne va rien laisser apparaître de bon, mais ta vie.
Moi, j'essaye de retrouver Lady Charlotte dans la foule.
Et j'attire l'attention de Dodar et de Conrad sur la brume s'ils ne l'ont point vu, pour qu'ils se préparent une nouvelle fois au combat.
Ok, Lady Charlotte est donc complètement prostrée. Elle s'est arrachée les yeux, elle bave complètement.
Ouais. D'accord. Je commence à pleurer et je la poignarde à mort.
D'accord, ok.
Pour abréger ses souffrances.
Ok. Donc, Odar, Conrad, Vidéric vous fait un signe vers l'énorme forme brumeuse qui commence à devenir de plus en plus solide, de plus en plus grande, énorme même, et qui commence à se déplacer. Que faites-vous donc du coup, Odar et Conrad ?
La brume est toujours brume, donc.
Oui, mais elle prend de plus en plus forme, mais une forme étrange.
La salle, c'est... on est toujours dans une salle ? On n'est pas toujours. Dans une espèce de...
Toujours, et à peu près à l'opposé de vous, en fait, la brume se déplace et commence à arriver vers les tables des invités.
Il y a des chevaliers, il y a d'autres hommes d'armes, de manière générale, dans la salle ?
Certains se sont suicidés, d'autres sont prostrés par terre, d'autres hurlent à la mort, et ils ont l'air d'avoir tous perdu l'esprit.
Donc, tant que le truc n'aura pas pris forme, j'essaierai quand même de les invectiver... pour leur donner du courage et leur demander de venir nous aider. Relevez-vous, hardi chevalier de Lord Boniface. L'heure est venue de mériter votre place.
Conrad, Odar, que faites-vous ?
Moi, j'essaie de garder l'œil, un œil sur la brume et je fouille le cadavre de Kael.
Pour voir tu si ne trouves rien de spécial sur son cadavre. Odar ?
Moi, je vais jeter ce que je trouve, une lanterne ou une torche sur la forme brumeuse.
D'accord, tu lances, ça passe à moitié à travers et ça s'éteint ensuite. Mm-hmm. Lady Rowena, tu viens de poignarder ton ancienne maîtresse qui était devenue folle à mort. Tu vois la forme qui s'approche et qui commence à arriver sur les premiers invités de la haute table. Et alors que la forme passe sur eux, tu entends des bruits horribles d'os craquer. Tu vois des gerbes de sang qui partent dans tous les sens et des morceaux de corps humain qui sont projetés partout. Tu vois que la forme brumeuse commence à être de plus en plus tangible, de plus en plus jaune, et comme si c'était une sorte d'immense silhouette encapuchonnée dans des loques jaunes, effilochées, déchiquetées, et qu'à travers les trous de ses vêtements, des choses bien peu humaines se trouvaient. Tu peux me faire un jet de santé mentale, et tu peux me faire un jet de santé mentale avec un désavantage, c'est-à-dire que tu jettes 2 dés, tu gardes le pied.
Okay. 5.
Parfait, 5 et 5, magnifique.
Parfait.
Donc je ne perds pas de...
Non, tu ne perds pas de dés. Par contre, tu es passablement quand même choqué et tu vois quand même du sang. Que fais-tu ?
Je recule en hurlant.
D'accord.
Et je crie à mes camarades qu'il faut absolument fuir. C'est l'enfer qui arrive, c'est Satan. Le diable est parmi nous.
Alors notre foi le repoussera.
Vidéric, que fais-tu du coup ?
Du coup, j'encoche une flèche, prêt à tirer dès que je vois une forme plus solide. Et je continue d'invectiver en criant à tous les porteurs de foi de se tourner face à cette abomination.
Alors tu vois effectivement la forme qui devient un peu plus solide. Tu vois aussi le spectacle de cette forme qui déchiquette, broie et écrase les formes humaines de la haute table où se trouvaient donc les nobles et autres. Tu peux me faire un petit jet de santé mentale, toi aussi. Donc pareil, avec un désavantage.
Il y a un truc pour faire, non ? Faut juste lancer deux fois.
Oui. Lance deux fois.
Bon, ça, c'était pas la peine de lancer une deuxième fois. C'est un échec.
Tu passes à 4 et surtout tu as l'impression d'avoir vu à travers les oripeaux jaunes que porte cette silhouette des choses qui ne sont pas du tout humaines. Tu lâches ton arc, ta flèche et tu commences à courir. Vers où cours-tu ?
Vers là où je suis arrivé sans doute.
Je sais pas, hein, tu me dis.
Si, bah, je cours. Hein. J'essaie de fuir le château, ouf, en tout cas cette salle.
Ok, Odar et Conrad, que faites-vous ?
Moi, je me dis que je commence à me dire qu'il va falloir que... J'essaie de voir s'il y a des torches, des choses qui peuvent foutre le feu au bâtiment, en fait.
Alors, tu as vu Odar lancer une torche dans la brume, la torche est éteinte.
Oui, mais...
Mais il y a des torches partout sur les murs si tu souhaites brûler les tables et autres.
Ben, j'essaie de faire ça.
Ouais, donc tu commences à mettre le feu, pas de problème, ok. Et toi, Odar ?
Je vais essayer de sauver des gens, donc des gens qui vont se faire recouvrir par la brume et d'essayer de les faire sortir, ou de les pousser vers la sortie.
Rapproche de la brume ou tu prends les premiers gens qui sont les plus proches de toi ?
Ouais, j'essaye de sauver les gens qui vont bientôt se recouvrir par la brume.
D'accord, donc tu te rapproches.
Un peu, ouais.
Donc tu vas me faire aussi un jet de santé mentale.
En malus, hein ?
Si, malus aussi. Hein.
Merde. Du coup, faut que j'en relance un, quoi.
Ouais, là. Donc alors que tu te précipitais pour aider les gens, tu te retrouves recouvert de sang et de tripes et dans tes mains se trouve maintenant la tête de Redwall, le forgeron
qui était aussi la figure paternelle que tu avais, et tu te mets à hurler et à courir. Vers où cours-tu ?
Avec moi, on va faire une contre-soirée.
tu peux aussi hurler de rage et courir suce à la chose brumeuse.
Oui, bien sûr, fais ça.
Non, je vais rejoindre mes amis.
Bah, ah, Vidéric qui court.
Mais moi aussi, je me mets à courir.
Rowena, tu te mets aussi à courir. Conrad, est-ce que tu... Donc toi, tu as lancé des torches sur les tables où les reliefs du banquet commencent à prendre feu, les grandes bannières installées pour la fête de Hull qui était toute noire avec le signe en jaune commence à prendre feu aussi. Que fais-tu d'autre ?
Bah, je suis le mouvement.
D'accord. Donc là, je vais vous demander à tous de faire un jet de volonté, mais de faire en dessous de la moitié de votre volonté.
Voilà.
Ah, donc, d'accord. C'est voilà, volonté. Tu veux qu'on échoue, donc. Volonté, c'est le wisdom, c'est la sagesse ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Ah, j'ai 10.
Et on doit faire quoi ?
La moitié de notre volonté.
Oh, punaise, j'ai réussi. 2 sur 9, donc enfin 2 sur 4,5.
J'ai bien échoué.
Moi aussi.
Conrad a réussi aussi.
Ouais, j'ai réussi aussi. J'ai du mal à voir mon résultat parce qu'à chaque fois, ça se décalait. Et oui.
Alors, donc vous êtes partis un peu tous, chacun de votre côté. Donc, Lady Rowena, Odar, donc vous vous précipitez follement dans les passages et les escaliers en colimaçon, dans les pièces et les couloirs, car le château semble changer tout autour de vous. Et après ce qui semble être des siècles, vous trouvez votre chemin pour sortir du château. Et à votre grande horreur, les champs enneigés du Wessex ont disparu. Le ciel est sombre au-dessus de vous et les étoiles sont inconnues et répugnantes à voir. Des lunes jumelles vous contemplent alors que vous vous tenez dans la rue pavée d'une énorme ville faite de pierres noires. Une brume s'élève d'un lac sombre et menaçant alors que le souvenir du conte du barde vous hante, vous réalisez que ce ne peut être qu'un seul endroit. La ville au bord du lac Ali, votre nouvelle demeure où le roi en jaune règne pour l'éternité, car Koza l'a perdu. Et vous, de votre côté, du coup, Vidéric et Conrad, vous êtes aussi précipités follement dans les passages et les escaliers en colimaçon et dans les pièces et les couloirs. Le château aussi semblait changer tout autour de vous, et soudain vous avez trouvé une porte familière, une sortie du château, et vous courez à l'extérieur et vous vous retrouvez dans l'obscurité, tombant sans un bruit. À un moment, avec un bruit sourd, vous vous retrouvez allongé dans un champ enneigé. Lentement, debout, vous vous retrouvez dans un endroit inconnu. Le château du seigneur Boniface a disparu et vous ne reconnaissez plus rien autour de vous. En errant, vous trouvez un village. Vous apprenez que vous êtes dans un fief voisin. Lorsque les villageois vous demandent d'où vous venez, vos réponses provoquent des regards nerveux et des regards de confusion. Personne ici, ni nulle part ailleurs où vous voyagez, n'a jamais entendu parler de Sherborne. C'est comme si elle avait été coupée du monde, comme une tache pourrie sur une pomme. Pour le reste de vos jours, vous vivez comme des ermites et des parias, chassés d'un endroit à l'autre par ceux qui vous considèrent comme des fous. Vers la fin, vous vous demandez si vous n'êtes pas fou et si les derniers jours cauchemardesques de Sherborne ne sont que le fantasme de votre esprit enfiévré. Et voilà la fin donc de cette partie Herald of the Yellow King. Voilà.
Volume 2.
Volume 2, ouais. Donc la volume 2 de Ripples from Carcosa. Et donc c'est la fin du scénario Herald of the Yellow King.
J'ai une petite, toute petite question quand même.
Bien sûr.
Si on retourne sur les terres de Sherborne, et il n'y a rien ou il y a autre chose ?
Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Il n'y a pas d'habitation, quoi. Enfin,
non.
On doit reconnaître éventuellement le paysage, mais le...
Même pas, en fait. Vous ne reconnaissez même pas le paysage.
D'accord. Ok.
Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que, du coup, à Carcosa, on peut s'installer ou monter un business ? Je pense qu'avec Odard, on va se marier peut-être
Carcosa, c'est compliqué. Hein. Carcosa, c'est un peu. C'est une sorte d'enfer. Vous survivez très, très, très longtemps.
D'accord.
Ou alors vous survivez très, très, très longtemps et c'est pas mieux. C'est pire.
Poursuivi par un fou.
Non, excusez-moi d'avoir inversé les deux paragraphes. C'est parce que j'ai un troisième paragraphe au cas où quelqu'un faisait un 20 sur le jet.
Ah, oulala.
Et si jamais on l'avait chargé pour essayer de taper les brumes, j'imagine qu'on mourrait.
Ah bon,
oui. Non, oui, il n'y avait pas de.
On a zéro chance, quoi.
Non, la bataille, c'est zéro chance. La fuite, il y avait une chance, effectivement, mais c'était très difficile.
On a quand même 2 sur 4, c'est plutôt pas mal, du coup.
Ouais.
C'est clair. Surtout
avec des scores entre 9 et 11.
C'est ça. C'est les jets de dés qu'il ne fallait pas rater. Il y en avait eu beaucoup ce soir, mais du coup, il ne fallait pas les rater. Il y avait une autre option qui était effectivement de ne pas tuer Kael, mais de lui présenter la lettre d'excuse.
Ah, il arrêtait tout.
En fait, c'était plus que ça, c'est qu'il vous aidait à défaire ce qu'il avait fait.
Ah ouais, donc on gagne entre guillemets. Quoi. Enfin...
Là, il y en a de
part. J'avais pas du tout compris que le barde en question, c'était le mec à qui on devait présenter les excuses, hein, très clairement.
Oui, j'étais pas non plus.
Là, c'était le même prénom.
Avant ce soir, j'avais pas compris. Enfin...
Ah oui, d'accord.
Soit le prénom, je l'avais pas capté ou j'avais pas fait le lien, ou enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est seulement grâce au résumé de ce soir que j'ai compris que le mec qu'on avait en face de nous, c'était celui à qui on devait normalement présenter les excuses. Ouais. À la base, à Derek Solding.
On a mis du temps à finir ce scénario. Moi, j'avais oublié.
Ouais, mais après, c'est ça.
Après l'ignoble boucherie qu'il a fait, je vois pas trop qui.
Ouais, j'avoue que mon premier appel, c'était pas dans envie d'excuse.
Non, bien sûr. Ouais.
Mais bon.
Non, mais il y avait d'autres façons de faire, c'est tout.
Ouais. Après, j'ai quand même compris quand on l'a tué qu'effectivement, il y avait autre chose.
Il a
peut-être pu discuter, mais bon. Et du coup, alors, si on avait fait 20, il se passait quoi ? Tu veux nous le dire ou...
Ouais, je peux vous le dire. Vous vous précipitez follement dans les passages et escaliers en colimaçon, dans les pièces et les couloirs, car le château semble changer tout autour de vous. Jusqu'ici, ça vous semble, assez...
Oui, ça ne change pas trop.
Alors que vous traversez une pièce pour vous rendre à une porte, celle-ci s'ouvre soudainement. Une silhouette, vêtue d'une robe de chiffon jaune en lambeaux et portant un masque pâle, glisse vers vous. Vous criez alors que des vagues de menaces, de terreur et de désespoir vous envahissent. Et donc là, tu rentres en combat avec l'aura en jaune.
Ah oui, et donc tu meurs.
Voilà, c'est ça. En gros, la bataille, c'est les redoutables pouvoirs du roi en jaune s'avèrent trop pour vous. Au fur et à mesure que les cris s'éloignent du château, Sherborne s'éloigne aussi des réalités terrestres. À l'aube, le château, le fief et tout le souvenir humain de celui-ci ont disparu. Tout ce que le fief a toujours été est absorbé dans Carcosa. Derrière le masque pâle, le roi en jaune sourit, heureux de la nouvelle addition à ce domaine. Mais bon, il y a eu des survivants, des gens qui ont survécu. C'est pas mal. Ça veut dire que,
il faut pour que nos descendants puissent faire le troisième.
Peut-être que vous aviez d'autres descendants, peut-être que vous n'êtes pas aussi enfant unique de votre famille, peut-être et que c'est la branche.
Non, je veux pas le savoir. Moi et Conrad, Vidéric et Conrad vont faire des enfants et ainsi, l'un avec l'autre.
L'un avec l'autre. Ça va être un peu spécial, mais bon, c'est comme ça.
C'est pas dit qu'on est des descendants. C'est...
Non, on l'avait évoqué, je crois. Mais...
Ouais, mais je veux dire, dans le scénario de base, c'est écrit qu'on est des descendants ?
Non. Non, 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 non. Par contre, vous avez eu, en voyant le signe en jaune, vous avez tous eu un flash des vies des personnages que vous avez joués pendant l'Empire romain.
Mm-hmm, ouais.
Donc, c'est ça la seule piste que vous avez. Vous ne savez pas si vous êtes des descendants, si c'est d'autres choses, etc.
Je crois que j'ai préféré la partie romaine, finalement. Et les autres, non ?
Moi, j'ai bien aimé cela aussi.
Ouais, c'était sympa aussi.
Après, le problème, c'est que c'était plus décousu à cause de nos agendas, quoi. Mais...
C'était plus long. Deux fois plus long, je pense aussi.
C'était certainement plus long, oui, effectivement.
Je retournerai sans doute au système des 100 pour la dernière partie. Au final, je suis plus à l'aise avec, et puis ça... Il y a trop de jonglage à faire de transcription d'un système à l'autre, sachant que j'ai déjà toute la traduction du scénario à faire.
Enfin, je rigole, mais j'ai pas de succès.
Pour ce scénario-là, vu qu'il a été écrit dans ce système-là, je me sens plus à l'aise avec le descend, en fait.
Ok.
Je pense que le système Cthulhuac peut très bien marcher pour certains trucs, mais limite plus pour du Cthulhu moderne, j'ai envie de dire. Un peu comme ce qu'on avait fait avec toi, Riley et
Yann. Tout à fait. Ouais, c'était très bien passé.
Ouais, c'était assez sympathique. Il y avait eu ça s'était bien goupillé, mais c'est vrai que là, je pense que je retournerai sur le dessin.
Et la troisième partie, c'est dans l'espace, du coup ?
Eh bien, écoute, vous allez le découvrir.
Ah, tu ne dis pas. Ok, d'accord.
Non, je ne dis rien.
Mais je crois que c'est dans l'espace, quand même.
Ah, c'est possible.
Et que c'est dans le futur, c'est ce que je l'avais dit, mais dans l'espace.
Oui, mais c'est trois temps différents. À chaque fois, il y a du temps entre chaque scénario. Donc, c'est sûr que ça sera dans le futur par rapport aux années 1000 de Sherborne.
Non, en tout cas, ce n'est pas les années 20, hein, il me semble. Bon.
Non, ce ne sera pas les années 20. Non, ce sera plus original que les années 20. C'est ce que j'ai bien aimé dans cette campagne de trois scénarios, c'est que les trois périodes proposées, je trouve assez originales et ça change vraiment du Cthulhu classique, ce qui permet de faire d'autres choses et ce qui est assez sympa. Puis comme je sais qu'il y a des gens à la table qui ne sont pas forcément ultra fans du Cthulhu classique, ça m'a permis de les faire venir, n'est-ce pas Jordi ?
Pour moi, les pires années, les années démoniaques, les années Mitterrand.
C'est ça le troisième scénario.
pour avoir revu des trucs, les cathos bourgeois, ils croyaient vraiment ça, quoi. C'était la folie, quoi.
Ça vous a plu quand même si c'était un peu court, etc. Mais bon, ça allait.
Et du coup, dernière question. D'ailleurs, ce bouffon là, c'est du coup un héros de ce. Enfin, on en saura peut-être plus plus tard. Je ne sais pas.
Le bouffon, c'est le bouffon
du roi jaune.
Ouais.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à commenter. Et retrouvez tous nos épisodes sur jdracademy.com. Salut!